La culture, c'est quoi?
C'est connaître la littérature, l'histoire, la politique et la géographie.
Ainsi que l'ethnosociologie, la philosophie et les sciences humaines.
Et pour finir, la musicologie, la zoologie et l'archéologie.
Tout ce qui est chiant, quoi.
Mais vous inquiétez pas, on vous parlera pas de ça dans cette émission.
On parle de quoi alors?
Interview, théâtre, émotion, street art, de pourquoi les artistes créent, de films ainsi que de musique.
Bonjour et bienvenue dans MTP Ado Culture, l'émission des ados de Montpellier. Nous sommes en public à la maison des ados de Montpellier pour vous parler culture, mais pas la culture généraliste qu'on apprend à l'école.
Si vous êtes dans les bouchons, vous pouvez nous écouter sur RPH ou Radio Clapas. Si vous êtes connecté, rejoignez-nous sur le site internet de la MDA ou de l'association Wakadi.
Tout de suite, l'équipe de la radio vous emmène au musée, à la ZAD, au théâtre, en plein tournage, découvrir le street art. Et nous recevons aussi le street artiste Al Sticking sur notre plateau.
Et je pense que ça, c'est la base de la culture en fait. Une culture qui n'est pas accessible, c'est pas une culture intéressante.
Ado
MTP. C'est quoi ça?
La radio que vous aimez.
Pour commencer, parce que la culture, c'est pas uniquement la culture générale qu'on apprend à l'école, c'est aussi des émotions artistiques. On a voulu profiter d'un événement qui se déroulait pendant que nous réfléchissions à notre sujet d'émission, ça s'appelle la ZAT. Alors Anissa et Marie, vous avez fait avec Mathilde, Alice, Alan et Maxime des reportages sur cette ZAT, dites-nous en plus.
Eh bien, on en a profité même beaucoup, puisque nous y sommes allés deux fois, au quartier Malbosque, où se déroulait la 7e édition de la zone artistique temporaire. Une fois pendant le chantier et une fois pour la soirée. On vous ramène un petit reportage où on entend Pascal Lebrun-Cordier, qui est le directeur artistique et qui nous présente sa ZAT.
Juste un mot, vous savez où on est exactement, Malbosque? Vous connaissez le quartier? Vous êtes déjà venu ou pas? En tram, ouais. Alors moi, je peux vous dire deux, trois choses, si vous voulez, sur le quartier. C'est un quartier qui n'existait pas il y a 10 ans, Malbosque. En fait, c'est un quartier tout neuf et tout a été construit depuis 10 ans. Avant, c'était des terres agricoles. D'ailleurs, il reste des vignes, vous allez voir, dans le parc. Et donc là, en fait, les immeubles ont été construits depuis 10 ans et il y a 5000 personnes qui vivent là aujourd'hui. Et du coup, la ZAT, on est installé dans le parc un peu plus loin. Donc ce qu'on peut faire, c'est se promener, remonter la coulée verte qui est là et aller découvrir le parc où aura lieu la ZAT. Oui. Là, il y aura déjà des spectacles samedi. Vous allez venir samedi ou pas?
Oui.
Vous verrez, il y a un spectacle que je vous recommande qui aura lieu ici, dans le bassin. Après, les spectateurs vont remonter la coulée verte qu'on va nous-mêmes remonter, vous voyez, qui est entre les maisons. Et on va, tout au long du parcours, rencontrer toute la nuit des artistes ou des installations artistiques. Ça commence à 20h et ça se terminera à 7h du matin, 7h15. Alors, je peux vous dire pourquoi. C'est parce que la ZAT, d'abord, la manifestation ZAT, donc Zone Artistique Temporaire, c'est une manifestation mise en place par la ville de Montpellier, dont l'objectif est d'explorer la ville. Voilà, Montpellier, c'est une ville qui grandit très vite, où de nouveaux quartiers comme ici se construisent régulièrement. Et donc l'enjeu de la ZAT, c'est en se déplaçant à chaque fois dans un nouveau quartier, de faire découvrir le quartier, ou le faire redécouvrir aux Montpelliérains et aux autres. Donc c'est une manifestation assez originale, qui n'a pas d'équivalent ailleurs en France. Avec les artistes, avec les spectacles, on propose aux gens de venir voir comment finalement la ville existe, comment elle peut exister différemment aussi par la présence des artistes. C'est ça l'objectif. Et donc on a fait pour l'instant 7 ZAT. On a fait 7 éditions de la ZAT depuis 2010, c'est la 8e. Et pour cette 8e édition, dans un parc, j'ai imaginé, c'est ça mon travail de directeur artistique aussi, c'est d'imaginer ce que peut être la ZAT. C'est moi qui imagine au début. Ça commence dans ma tête par un projet que je construis après avoir fait une petite enquête. Donc là, j'ai fait une enquête dans le quartier, j'ai rencontré les gens, je me suis beaucoup promené dans le parc Malbosque et j'ai imaginé une ZAT nocturne. Et donc nous, voilà, entre 20h et en gros 7h15, on a des spectacles, on a des installations de feu, il va y avoir du feu dans tout le quartier, des grandes machines de feu. Et on invite les gens à vivre une aventure.
Est-ce que tu peux décrire ce que c'est?
C'est une sculpture de feu. Avec un réchaud au milieu et plein de tiges de feu partout. Je vois des tuyaux, je vois des petites boules de sculpture avec des pics, du feu et de l'eau. Voilà, et avec des récipients pour mettre de l'eau.
Ça sera aussi une aventure intérieure. Moi, c'est ce que je cherche en tout cas, c'est à faire en sorte que les gens vivent des aventures intérieures, émouvantes. intime et intense. On verra si ce sera le cas pour vous, pour les spectateurs. En tout cas, c'est l'enjeu pour nous, c'est que les gens vivent une aventure forte qui les marque.
Bonjour monsieur, pour vous, qu'est-ce que c'est ça ?
Alors pour moi, c'est une pieuvre géante qui met en relation le feu et l'eau, qui sont deux éléments qui sont contradictoires dans un jeu tentaculaire, puisque ça ressemble à une pieuvre.
C'est pas mal. Et est-ce que je peux vous interviewer par rapport à la ZAT aussi ?
Oui.
Pour vous, c'est quoi la ZAT et qu'est-ce qui vous plaît dedans ?
C'est la zone artistique temporaire, donc c'est l'idée qu'elle s'implante dans un quartier et qu'elle permet de faire déjà connaître un quartier de Montpellier. Et ensuite, elle permet d'offrir au public une vision de l'art qui n'est pas celle qui est dans les musées, mais celle qui est donnée aux gens dans la rue. Voilà, et celle qui est offerte aux gens pour les gens. Donc c'est l'art pour les gens.
Eh bien, merci pour ce retour dans cette soirée artistique, ça donne envie. Mais c'est Pascal qui parle au début, c'est quoi exactement son rôle de directeur artistique ?
Ah, t'inquiète, on avait prévu que tu nous poses cette question.
Bonjour, comment vous appelez-vous ?
Je m'appelle Pascal Lebrun-Cordier.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Dans la vie, je suis directeur artistique de la ZAT.
Et qu'est-ce que ça fait, un directeur artistique ?
Un directeur artistique, c'est quelqu'un qui donne une direction pour une manifestation artistique, en l'occurrence la ZAT. Mon travail, c'est d'inviter les artistes, en fait, qui seront là samedi soir pendant la ZAT.
Et quel est votre parcours ?
Alors, mon parcours, écoute, quand j'avais 15 ans, 16 ans, je m'intéressais beaucoup au spectacle. J'allais voir beaucoup de spectacles, ça me plaisait, c'était fort, c'était des émotions, c'était... Voilà, des moments de plaisir, et j'ai toujours été très attiré par le monde du spectacle. J'ai commencé à travailler avec des artistes, aller voir des spectacles, mais à travailler avec eux aussi, c'est-à-dire regarder comment ils développent leur création, leur spectacle, les aider à les faire connaître, en parler. Et mon parcours, dans mes études ou dans mon activité professionnelle, a toujours tourné autour du spectacle, mais de l'art de manière plus générale. La rencontre avec les œuvres d'art, la manière dont on découvre autrement le monde quand on voit des spectacles.
Ok pour le directeur artistique, mais il fait pas un spectacle comme ça tout seul, non ? N'est-ce pas, Anissa ?
Bien vu, effectivement, on a aussi rencontré le directeur technique, on l'écoute tout de suite.
Alors moi je m'appelle Philippe Machmel, c'est mon nom de famille, et donc voilà, je suis directeur technique de la ZAT depuis sa création en novembre 2010.
Déjà, je voulais savoir qu'est-ce qu'un directeur technique ?
Alors, dans un événement, un directeur technique, c'est la personne qui est en relation avec le directeur artistique et l'organisateur de l'événement va mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir accueillir les artistes et le public.
Qu'est-ce que vous faites en fait exactement au niveau de la ZAT, quoi ?
Alors, je vais essayer de faire simple. Pascal Lebrun-Cordier, que vous avez rencontré auparavant, est le directeur artistique. Donc, il fait une proposition de programmation, c'est-à-dire les artistes qu'il a envie de présenter au public de Montpellier. Et nous, notre rôle, c'est de comprendre ce que la présence de ces artistes va impliquer en termes d'installation technique. Est-ce qu'il faut monter une scène ? Est-ce qu'il ne faut pas monter de scène ? Est-ce qu'il faut du son ? Est-ce qu'il faut mettre de la lumière ? Est-ce qu'il y a de la vidéo ? Où est-ce qu'on va l'organiser ? Comment on va accueillir le public ? Combien de public est-ce qu'on pourra accueillir ? Comment on met tout ça en place ? Quel est le personnel nécessaire pour que tout cela fonctionne ? Là, vous avez vu, j'étais en discussion avec les agents de sécurité. Ça fait partie de mon travail aussi. Hein, il faut protéger le matériel. Il faut aussi assurer la sécurité des gens. Voilà, donc tout ça fait partie de mon travail. Find a sister, find a brother.
The storm is gonna come. Merci bien pour ce reportage. On entend derrière moi un extrait de cette belle nuit de la ZAT, rendue possible par tous ces professionnels que vous avez rencontrés, et les bénévoles et les intermittents qui l'ont rendue possible. On écoute à l'instant Fier Pacini qui s'est produit pour le coucher du soleil. C'était un très bon moment.
Find a sister, find a brother. A storm is gonna go.
Après ce beau moment qu'on vient d'entendre grâce à Alan qui a mis tout son corps et tout son cœur pour prendre le son, nous allons continuer notre émission.
À cette ZAT, on s'est donc fondu dans le public et on a appris bien du plaisir. Mais on s'est aussi posé une question essentielle. Pourquoi les artistes créent ? Et c'est Clélia qui nous en parle.
Moi, je pense qu'ils créent premièrement parce qu'ils aiment créer et parce que comme ça, ils peuvent nous faire passer un message ou nous faire ressentir un sentiment. C'est aussi un moyen d'expression pour nous faire comprendre quelque chose qu'ils ne diraient peut-être pas directement.
T'as un exemple ?
Ben, comme quand les auteurs-compositeurs parlent de love dans leur musique et qu'en face, ils ne le disent pas comme Chris Brown dans With You. Et puis, il y en a d'autres qui créent juste pour eux, pour leur plaisir, sans forcément revendre ce qu'ils font. Il y en a aussi qui, dans leurs livres, cherchent à nous faire passer un message un peu comme une morale, comme le fait La Fontaine dans Le Lièvre et la Tortue. D'autres veulent nous faire ressentir un sentiment, comme les réalisateurs, ils font dans leurs films avec des scènes émouvantes.
Comment tu sais qu'elles sont émouvantes ?
Ben, on le sait grâce à la musique qui est souvent calme et douce, la lumière qui devient plus sombre et même des fois les scènes sont au ralenti. Mais vraiment, je pense qu'avant tout, s'ils créent, c'est parce qu'ils adorent ce qu'ils font et que c'est un passe-temps. Certains ont peut-être grandi dans cet univers de création artistique.
T'as une idée d'une personne qui a grandi là-dedans ?
Ouais, Jaden Smith et Will Smith, les enfants de Will Smith, qui est un acteur très célèbre et il a fait de la musique aussi. Son fils Jaden a suivi les traces de son père en devenant acteur et sa fille Willow a décidé, elle, de commencer la musique. Depuis qu'ils sont petits, ils vivent dans cette atmosphère artistique, c'est sûrement grâce à ça qu'ils ont une carrière.
Et pour toi, tous les artistes connus aujourd'hui ont grandi avec des parents étant artistes ?
Non, du tout, il y en a beaucoup qui n'ont pas grandi dans cette éducation artistique comme Van Gogh, qui est un peintre très connu, ou Jamel Debbouze, lui non plus ne vient pas d'une famille artistique et pourtant il est devenu un très grand humoriste.
Merci Clélia, on y voit plus clair sur l'acte créatif. Mais en plus, dans notre équipe radio, nous avons une artiste comédienne qui a une mère artiste peintre.
Salut Mathilde.
Salut Maxime.
Pourquoi fais-tu du théâtre ?
Parce que je me sens comme tout le monde et je suis bien dans ma peau. Je suis différente et je joue un rôle, donc je suis tranquille.
Qu'est-ce qui te plaît dans le théâtre ?
Ce qui me plaît est de jouer un rôle et d'être sur la scène. Je me donne au max pour faire plaisir au public et je suis contente.
Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'en faire ?
J'ai le syndrome d'Asperger et j'ai lu qu'un jeune ado de 13 ans, américain Luke Jackson, lui aussi Asperger, a fait du théâtre et du taekwondo pour se sentir mieux. C'est donc lui qui m'a fait découvrir le théâtre. Au début, j'étais timide, mais maintenant, je me sens mieux.
Depuis combien de temps fais-tu du théâtre ?
Je fais du théâtre depuis 4 ans. J'en ai fait 3 ans dans mon village et aussi 2 ans dans mon lycée.
Quel est ton meilleur souvenir ?
Mon meilleur souvenir de théâtre est quand j'ai fait ma dernière représentation avec mon lycée cette année. J'étais très émue car un de mes camarades a fait un discours et il a dit qu'on était tous une grande famille de comédiens.
Pour finir, quel a été ton meilleur rôle ?
Mon meilleur rôle a été quand j'ai joué une vacancière qui voulait partir à Caen. Je l'ai fait une fois à Vendargues et une fois cette année dans mon lycée. C'est un texte de Raymond Devos et j'aime beaucoup cet auteur et grand comédien.
Merci à vous deux, Mathilde. On a même utilisé tes talents de comédienne pour parler d'art contemporain. Moi, tu m'as bien fait rire dans ton rôle de la guide de notre drôle de musée Picasso. Écoutez plutôt cette visite atypique.
Bienvenue au musée Pablo Picasso. Vous allez découvrir une exposition originale, contemporaine et également futuriste.
Waouh, ça a l'air super! J'ai hâte de tout découvrir.
Ouais, j'espère que ça va pas durer une éternité. Au moins que j'apprenne quelque chose.
Voici pour commencer une sculpture.
Oh, un porte-ciseaux!
Mais non, c'est les ciseaux du grand Karl Lagerfeld. Ils sont rouillés vu son âge.
Oh, génial! En plus, il fait vraiment vintage, hein?
Il a planté malheureusement dans une plaque de métal et il est tombé par terre. Quel artiste!
Oh là là, ça a l'air vraiment compliqué, cette sculpture. Mais j'aimerais bien l'avoir chez moi.
Pff, n'importe quoi, c'est une sculpture de Langeoni Giuseppe. En fait, il utilise les clous et les tenailles pour exprimer le thème de la blessure, de la douleur, de la souffrance contenue, de la compression et même de l'anxiété.
T'arrives à voir tout ça dans un porte-ciseaux? Si ça, c'est une œuvre, alors j'en ai plein dans ma cuisine.
Maintenant, suivez-moi dans la deuxième salle. Je vais vous montrer un tableau d'un grand artiste. Et voici justement Duguay-Clin qui va décrire son œuvre.
Bonjour,
Je suis Duguay Klein. Mon travail d'artiste n'est pas sur l'œuvre en elle-même, mais sur le cadrisme. Je force le spectateur à ne pas s'intéresser à l'œuvre, mais au cadre qui est beaucoup plus important.
Merci à vous pour cette précision. C'est exactement ce que je dis à mes visiteurs.
D'ailleurs, il me reste une œuvre à découper, mais où sont mes ciseaux?
Ah si, on les a vus. Ils sont dans l'autre salle, là, vos ciseaux.
Passons maintenant à la dernière salle.
Waouh, magnifique! Ah, les lumières, elles sont même assorties au tableau. C'est beau.
Si la luminosité est faible, c'est pour montrer le coucher de soleil et pour faire ressortir le contraste. Ça pourrait logique.
Oh là là, il y a le feu! Il y a le feu ou quoi? Je crois qu'il faut s'enfuir, mais vraiment.
Mais ne paniquez pas! Allons vers la sortie. Calmez-vous!
Oh, revenez, vous allez où là? Restez calme, écoutez, c'est pas l'alarme incendie, mais c'est simplement de la musique acousmatique.
Merci de votre visite. J'espère que ça vous a plu.
Ah, je crois que j'ai compris l'art. En fait, l'art permet d'échanger, d'exprimer et à nous faire découvrir nos points de vue et d'éveiller nos sentiments. Ouais, je crois que c'est ça, hein.
Après l'art contemporain, on va continuer avec quelque chose de plus universel, sur la création. L'émotion que cela nous procure. Alors Marie-Laure, tu peux nous parler de ce que tu as ressenti tout dernièrement devant un film?
Oui, bien sûr. C'est un film que mon grand-père m'avait proposé. Il sait que j'adore les films de science-fiction, donc voilà. Au début, j'hésitais. J'avais une longue journée, mais je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et puis l'affiche m'attirait. Alors je m'installe, comme d'habitude, avec un paquet de gâteaux et la lumière éteinte. Le film commence, j'ai eu du mal à m'accrocher. Je suis partie 2-3 minutes et quand je suis revenue, je vois un homme et une femme, à mon avis, avaient à peu près le même âge. Ils sont tous les deux jeunes. 2 minutes plus tard, j'entends l'homme dire à la dame « Joyeux anniversaire, maman !»
Ah oui, c'est le film « C'est pas Time Out » avec Justin Timberlake où le temps remplace l'argent?
Si, c'est ça. Même qu'à 25 ans, ils arrêtent de vieillir et ils travaillent pour gagner du temps qu'ils utilisent pour payer les factures, les courses, le loyer. Par contre, quand le compteur est à zéro, ils meurent. Donc là, ça devient intéressant. J'augmente le volume et je plonge dans le film. Quelques minutes sont passées avec des moments de rire, de pleurs, de dégoût, des petites larmes, jusqu'au moment où la mère monte dans le bus et que le chauffeur lui dit qu'elle n'a pas assez de vie pour payer le trajet. Elle redescend et cherche par tous les moyens de retrouver au plus vite son fils qui l'attendait donc à l'autre arrêt. Elle sait qu'elle n'a pas assez de temps, mais elle court en pleurant.
Et elle va mourir alors?
Attends, il lui reste 50 secondes de vie et là elle voit son fils de loin. Arrive le moment qui m'a fait ressentir quelque chose. Les deux courent, le fils dit « Maman !» et la mère crie « Will !» Déjà là, j'avais les larmes aux yeux. Il court aussi vite qu'il peut, mais au moment d'attraper la main de sa mère, c'était trop tard. Elle était morte, dans ses bras. Je suis en larmes, non seulement parce qu'elle meurt dans les bras de son fils, ni parce que c'était son anniversaire la veille, mais aussi parce que Will venait de gagner une décennie. J'ai mis sur pause et je dis à mon frère « C'est quoi ton film de merde ?» Ce que je dis tout le temps quand le film se passe pas comme je veux. Et d'habitude, quand c'est comme ça, moi j'arrête le film. Mais là, j'ai continué quand même, en espérant que son fils allait venger sa mort. Et c'est ce qui s'est passé.
Et pourquoi tu as versé quelques larmes sur ce film?
Parce que ça parlait d'une mère, tout simplement. J'ai pensé à la mienne.
Merci d'avoir partagé ton ressenti avec nous, mais la culture, on la trouve aussi chez nous, à Montpellier, et même des fois tout près de chez nous, dans la rue, n'est-ce pas, Alan?
Oui. Donc, nous avons Plateau Altsticking, qui est reconnu comme une star du street art, mais avant de commencer l'interview, Chris va vous présenter ce qu'est le street art.
Oui, le street art. Le street art est un mouvement artistique contemporain. Il regroupe toutes les formes d'art réalisées dans la rue ou dans des endroits publics. Le street art est composé de plusieurs parties, le graff, le chant et la danse. Les graffitis sont des inscriptions de peintures réalisées sur des murs, des monuments ou des objets situés sur l'espace public. La peinture aérosol et les marqueurs sont les outils les plus utilisés pour le graffiti. Il y a plusieurs styles de graff. Le wheat style, quand les lettres sont entremêlées et fusionnées. Le bubble, également appelé flop, est un style circulaire. Le old school est issu de premières vagues de graffiti. Le style abstrait aussi, la lisibilité du lettrage n'est alors pas une caractéristique fondamentale. Le bloc, c'est quand les lettres sont de forme carrée. Et enfin, le hardcore, ce style qualifie tous les tags, flop, pièces vandales, art particulièrement violentes. Ça dégouline, prend de l'espace et donc ça crève les yeux.
Merci Chris pour cette présentation. Donc, Al Sticking, avez-vous quelque chose à rajouter à ce que Chris vient de dire ?
Bonsoir. Donc, il y a des choses très intéressantes qui ont été dites. C'est, après, sur la deuxième partie de ton explication, je trouve qu'elle concernait un peu plus tout ce qui était axé hip-hop, on va dire. Donc, notamment, oui, qui peut rejoindre le graffiti, la danse, le rap et d'autres domaines encore. Après, dans le street art, tu en parlais au début de ton explication, c'était très bien. C'est vraiment quelque chose qui est très, très large et qui peut comprendre notamment les actions artistiques dans la rue, donc comme le graffiti, en effet, comme le pochoir, le collage, la sculpture, la mosaïque. Il y en a beaucoup à Montpellier avec Space Invader, par exemple, et plein d'autres domaines encore. Mais on peut également prendre en compte dans la rue, quand on voit quelqu'un faire de la magie sur la place de la Comédie, des gens faire d'un instrument, toutes sortes de choses qui est réalisé dans l'espace public et qui a un lien avec un domaine artistique, peut être considéré comme un art urbain, street art donc plus généralement.
Donc cette question est plus personnelle, qu'est-ce qui vous a lancé dans le street art ?
En fait, j'ai toujours eu envie de m'exprimer dans la rue pour pouvoir confronter un petit peu mon avis avec celui des autres, et j'étais pas forcément très doué pour dessiner. J'avais pas une belle écriture non plus, donc je pouvais pas me mettre au graffiti, qui était un petit peu la seule chose qu'on nous renvoyait par rapport à l'expression urbaine. Et j'ai commencé à pratiquer un peu la photo à un moment, parce que je faisais beaucoup de rollers de rue, notamment il y avait déjà un petit lien avec la rue. Je me suis blessé un jour, j'ai récupéré un appareil photo, et à partir de là, j'ai commencé à en prendre en photo des amis dans certaines mises en situation, et que j'imprimais en petite étiquette au travail que j'avais à l'époque, et que je collais ensuite dans la rue. Et ensuite, les formats ils ont évolué, ma réflexion aussi, c'est-à-dire que je voulais vraiment mettre en scène les gens dans des situations particulières pour pouvoir proposer des réflexions aux gens, que quand les gens passent devant un de mes visuels, soit pas comme un graffiti où on voit un nom qui va être très esthétique, très graphique, très coloré. Moi, je cherchais plus à essayer de les prendre à l'intérieur, de leur poser des questions sur eux-mêmes, sur la société, essayer de créer des liens entre le personnage que je créais et son environnement, le mur, le quartier, la ville, et essayer de raconter une histoire pour vraiment essayer de sortir les gens dans une espèce de côté assez passif qu'on peut avoir maintenant devant la télévision, l'ordinateur ou d'autres médias de la sorte. Essayer vraiment de leur faire prendre conscience qu'il y a plein de choses qui sont à leur disposition, que ce soit en création ou dans plein d'autres domaines. Et donc, je voulais essayer de les faire réfléchir là-dessus.
D'accord. Donc, vous avez dit que vous avez commencé par la photo dans le street art. Est-ce que vous utilisez d'autres... Est-ce que désormais, vous utilisez d'autres matières ?
Ouais, c'est vraiment la photo, ça m'a permis de pouvoir imager ce que j'avais en tête, vu que je ne pouvais pas le dessiner. Et suite à ça, en fait, donc je fais beaucoup d'impressions par rapport à ces photos-là. J'ai dû apprendre à manier un petit peu l'infographie. Et puis, je ne voulais pas non plus rester trop bloqué sur cet ordinateur ou la machine qui est le boîtier photographique. Et donc, depuis 4-5 ans maintenant, on avait fait une exposition qui a bien marché à Montpellier, qui s'appelait Parcours. C'est un architecte qui nous avait laissé une grande maison qui était abandonnée, qu'il allait détruire. Donc, il voulait, avant la destruction, lui donner une dernière vie. Et j'ai travaillé avec deux graffeurs qui étaient Smol et Salamèche pour pouvoir mettre en place un projet au sein de ce bâtiment-là. Et donc, ayant à mes côtés deux personnes qui pratiquaient la peinture, eux à la bombe, mais c'est vrai qu'ils utilisaient d'autres médiums comme les pinceaux et encore d'autres techniques, je les ai regardés travailler, j'ai essayé de m'inspirer un petit peu d'une partie de leurs travaux et pour pouvoir créer quelque chose de plus personnel. Et à partir de là, j'ai fait beaucoup moins d'impressions et aujourd'hui, je travaille vraiment presque que uniquement en peinture. Je réalise tous mes personnages avec de l'acrylique ou de la glycéro. Je fais même des toiles et je me destine vers d'autres médiums encore. Quoi. J'apprends petit à petit et c'est toujours intéressant et réconfortant de voir qu'on peut toujours accéder à autre chose. C'est une évolution qui n'a pas de limite en fait.
D'accord. Donc, on sait que la plupart de vos graphes, si on peut dire, sont faits sur Montpellier. Mais est-ce que vous les avez faits dans d'autres lieux et comment les choisissez-vous ?
Ouais, il n'y a pas eu que Montpellier. C'est vrai que je suis résident ici, donc j'ai fait beaucoup de travaux de collage dans les rues de Montpellier. Après, ça peut m'arriver de me déplacer soit pour des raisons personnelles, hein, pour aller voir des amis, pour des voyages, des rencontres. Et donc, dès que je me rends dans un autre endroit, par exemple, je sais que ce week-end, je vais aller vers Rodez pour aller voir le musée Soulages, que je vais vous conseiller aussi. Et je vais prendre quelques collages avec moi, et sur la route ou à Rodez, dans les Cévennes, où je vais me rendre après, j'ai essayé de laisser quelques travaux. Il y a 2 semaines encore, j'étais au Cambodge, j'y suis allé pendant 1 mois et demi, et pareil, là-bas, j'ai mis en place différents projets artistiques. Il y avait un artiste que j'avais déjà fait exposer à Montpellier lors de l'exposition 3P2A qui se déroulait à Pierre-Vive, qui lui vit là-bas, donc je suis allé le revoir, et on a mis en place plusieurs peintures au sein du Cambodge. Donc voilà, j'essaye vraiment de continuer de développer mon art dans les différents endroits où je peux me rendre pour différentes raisons.
La plupart du temps, vous travaillez seul, mais ça vous déjà, à part donc ce fameux bâtiment où vous nous avez parlé, où vous avez travaillé avec 2 autres personnes, ça vous est déjà arrivé à d'autres moments de travailler en équipe, ou c'était le seul moment où ça vous est arrivé ?
C'est pas le seul moment, mais c'est vrai que j'ai plus tendance à travailler de manière indépendante sur les projets que je réalisais avant. Il y a eu cette aventure-là, Parcours, qui m'a bien ouvert avec les deux compères Small et Salamèche. Et puis, donc plus dernièrement, j'en ai parlé rapidement sur Pierre-Vive, où j'avais un poste qui pouvait s'assimiler à celui de Pascal Lebrun-Cordier, dont vous parliez tout à l'heure, où j'étais commissaire artistique, où donc j'ai dû mettre en place une exposition complètement de A à Z, à travailler pendant un an sur justement une exposition où j'avais invité 16 street artistes de renommée internationale, et donc avec qui j'ai dû travailler dans une étroite collaboration pour mettre en place ce projet-là, qui a duré 3 mois et qui a ramené 20 000 personnes au sein du bâtiment Pierre-Vive. Voilà, après, donc, comme pour le Cambodge, j'ai rejoint mon collègue Shifumi, avec qui on a travaillé sur tous les projets ensemble. Donc ouais, c'est vraiment très agréable de travailler avec d'autres personnes pour voir comment lui travaille, pour mettre aussi voilà, que chacun mette ses compétences à disposition de l'autre, et puis même qu'on puisse batailler un petit peu sur le projet avec nos manières de travail respectives.
Donc depuis le temps que vous faites du street art, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les avantages et les inconvénients?
Alors les avantages, je vais dire que c'est tous, parce que même dans les inconvénients, on va y retrouver du bonheur, des choses intéressantes. Avantage, donc, c'est de pouvoir travailler pour soi. Je travaille à mon compte, j'ai pas de patron directement. Je peux travailler pour différents projets, mais ce sera toujours moi qui mettra en place mes projets. Donc ça, c'est vraiment très réconfortant. Travailler dehors, d'avoir son propre atelier, de rencontrer pas mal de gens, d'être en rapport avec les humains. Déjà, avant tout, dans une époque où justement on est de plus en plus individualiste. Les inconvénients, l'inconvénient majeur, c'est que on n'a pas de salaire fixe. Moi, j'ai pas mon SMIC ou mon chèque qui tombe à la fin de chaque mois, parce que j'aurais fait le travail le mois durant. J'ai beau travailler tous les jours à l'atelier, il y aura des moments où je vais être content, parce que les choses intéressantes vont tomber de projets passés. Et en même temps, je vais travailler pendant 3 mois dans la rue uniquement, et je vais pas avoir de retombées financières directes. Donc c'est plus au niveau financier qu'il faut apprendre à jongler un petit peu. Et voilà, mais au fil du temps, on arrive à une situation qui est de plus en plus confortable quand même, où on arrive à bien fonctionner avec cette rythmique-là.
Et ça nous permet d'enchaîner avec cette question. À partir de quel moment vous êtes considéré comme célèbre ?
Je sais pas, je me considère pas comme célèbre. En fait, pendant un long moment, j'ai pas voulu montrer ma tête ou donner mon nom. Je travaille avec mes initiales, A et L, donc c'est la première lettre de mon prénom et de mon nom. Je voulais pas montrer ma tronche. Et puis après, quand on porte un projet comme celui de Parcours ou celui de 3P2A à Pierre-Vive, on est obligé de se mettre en avant, de se présenter pour pouvoir accompagner le projet. Et donc là, c'est vrai que les gens peuvent voir notre tête, quoi. Mais après, je peux me promener dans la rue tranquillement sans me faire accoster ou demander des autographes. Voilà, non, je suis pas une star, je suis pas plus célèbre que ça. J'essaye de mettre mes travaux en avant, et surtout la réflexion que je veux amener, c'est ça que je porte avant tout, quoi.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vendre certaines œuvres ?
Je me suis mis à... En fait, il y a plusieurs façons de vendre une œuvre. C'est-à-dire, quand je participe à une ZAD, par exemple, Pascal Lebrun-Cordier va m'inviter à un événement, et il va me dire, écoute, tiens, t'as ce quartier-là ou tel mur, je te les mets à disposition, propose-moi un projet. Donc par rapport à ce projet-là, on établit aussi un devis qui prend en considération les coûts techniques donc, du montage du projet, une paye également. Donc ça me permet déjà de pouvoir obtenir de l'argent grâce à mes créations. Et depuis parcours, ouais, j'avais vraiment pas envie de me lancer là-dedans, mais j'avais fait une toile juste pour essayer. Et cette toile-là est partie dès le premier soir. Donc ça m'a encouragé à en faire, mais je dois en faire quoi 5-6 par an, pas plus, parce que c'est pas quelque chose vers lequel je veux me diriger pour l'instant. J'ai pas envie de terminer complètement en galerie. C'est pas un support qui m'intéresse réellement. Donc par-ci, par-là, de temps en temps, je propose des créations sur support rigide, sur une toile, qui sont proposées, qui sont disponibles à la vente. Ouais. Et ça permet de pouvoir financer d'autres projets de rue qui sont complètement gratuits et pour lesquels je ne récolte rien à part du plaisir. C'est déjà beaucoup.
Donc, dernière question. Est-ce que vous considérez cet art et tous ceux qui sont similaires comme un métier ?
Oui, bien sûr. Après, il faut savoir ce qu'est un métier. Alors, si on prend la simple définition du mot métier, qui serait donc d'avoir une activité physique ou intellectuelle pour en échange d'une paye. Ouais, mais après, c'est pas un métier qui est habituel, on va dire. C'est des choix qui sont différents, mais qui sont possibles. Je pense que ça rejoint quand même beaucoup le domaine du rêve, où on se rend compte qu'il y a plein de choses qui sont possibles, qui sont à notre portée, qu'il suffit juste d'avoir l'envie, de donner la motivation pour pouvoir y accéder. Et la vie, elle est faite de plein de choses comme ça, en fait. Il y a tout qui est possible. Il y a juste des gens qui nous mettent des barrières en disant « Non, fais pas ça, c'est trop dangereux, ou ça va pas être possible. » Mais non, mais tout est possible, ça c'est sûr. Tu as quelque chose, tu y crois au fond de toi, tu mets ce que tu veux, tout ce que tu as en toi pour le rendre possible, et ça va bien se passer, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Avant qu'on finisse l'interview, je voulais rajouter également qu'on va mettre en place un petit projet ici au sein de la Maison des Adolescents. Donc il y aura une semaine, ça sera du 15 au 22, il me semble, où ceux qui veulent peuvent s'inscrire, où on essaiera de faire différents projets ensemble, différents travaux, pour créer son propre personnage et puis pouvoir aller aussi le placer dans les rues de Montpellier. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire pour cet atelier-là.
Merci Alstiking pour cette interview.
Merci à vous pour cette magnifique émission de radio.
Merci.
Et voilà, l'émission touche à sa fin. On a fait le tour, ou presque, de notre rapport à la culture. On avait aussi envie de vous parler de la place de la culture à l'école, de nos références culturelles, du plaisir qu'on prend à créer.
Tiens d'ailleurs, on en profite pour dire qu'on a pris du plaisir à créer cette émission avec vous. Merci à Chris, Alstiking, Marie-Laure, Alan, Emeric, le co-animateur, Maxime, Mathilde, Marie et Anessa, et moi, Clélia. Et à bientôt.
À bientôt.
Au revoir. Au revoir.
Knife.